Chers amis, Hachem Alechem Tihayu, Leorei Chaimim Tovim Veshanim Ne'imim. En ce jour de Tu Bishvat, il convient de nous pencher sur le sens de cette fête. Voilà, la première Mishnah de Rosh Hashanah indique que Tu Bishvat, selon l'avis de Beit Hillel, est qualifié de Rosh Hashanah La'ilan. C'est le Rosh Hashanah de l'arbre. Il est à remarquer que il n'est pas dit là, il la note, mais le mot arbre est indiqué au singulier. En quoi cela consiste? Quel est le sens de ce Rosh Hashanah? Donc, quand on plante un arbre, il y a l'interdiction dehors là. Les trois premières années, les fruits produits par l'arbre qui vient d'être planté sont interdits. Ça s'appelle orla. La quatrième année est appelée netah revay. Il convient de prendre ses fruits et les consommer à Jérusalem. Donc, ils ont un din de, ces fruits-là ont un din de Maaser Sheni. Elles ont une certaine sainteté. Donc, comment calcule-t-on les 3 ans ou les 4 ans de Netah Revay? Il ne s'agit pas de compter depuis le jour où on a planté 3 ans, jour pour jour. Mais la Mishnah, le sens de la Mishnah est le suivant. Si on plante un arbre ou un arbuste 45 jours avant Rosh Hashanah, alors il faut, la Gemara nous dit qu'il faut 15 jours pour que les racines prennent, et il reste donc un mois. Donc un mois avant Rosh Hashanah, Hodesh Bashana, Nirshav Shana, ce mois-là est considéré comme étant une année entière. Donc on a 45 jours donc à Tu Béav, un peu avant, au jour de Tu Béav, nous plantons un arbre, un arbuste, arrivé à Rosh Hashanah, 45 jours. L'année est considérée, les 45 jours sont considérés comme un an. Puis on compte 2 ans, et dans la troisième année, il suffit d'atteindre Tu Bishvat pour que cela soit considéré 3 ans entiers. Que les 3 ans sont complets. Donc c'est à Tu Bishvat que l'année, les 3 ans de Orla sont conclus. Et à partir de là, nous comptons encore 1 an jusqu'à Tu Bishvat de l'année prochaine pour Netah Revay pour la quatrième année. Ça c'est le sens même du sens de la halakha de Tu Bishvat. Cependant, comme nous l'avons indiqué, le mot Ilan est marqué au singulier. Et la valeur numérique du mot Ilan est de 91. Alors l'arbre, ce Ilan, fait référence à l'arbre de la connaissance. Adam Arishon était dans le Gan Eden devant l'arbre de la connaissance. Etz Hadaat Tovara. Donc cet arbre-là, il avait 4 dimensions. Alors, Chachamim nous disent de quoi était constitué, quel était le fruit qu'a consommé Adam Arishon. Alors, il y a 4 avis parmi les Midrashim. Premier avis dit que c'était du blé. Le blé, la hita, était considéré à l'époque, avant que Adam ne faute, comme un arbre. Donc, il y en a un qui dit que parce que la connaissance est attribuée au blé. Comme dit la Gemara, en atinok yodea, l'enfant n'arrive à distinguer, à parler, que lorsque il a déjà consommé des céréales, du blé. Donc on lui donne à manger de la farine de blé dans son lait, etc. Donc ça lui permet d'atteindre la connaissance. Le mot chita fait aussi référence aux 22 lettres de l'alphabet. Le mot chita a valeur numérique de 22. Un deuxième avis dit que c'est un étrog, que c'est le considéré comme étant la pomme d'or. Un troisième avis dit que Hava a pressé du raisin et a donné à boire du vin à Adam Arishon, le vin qui peut étourdir l'homme. Et c'est pour ça qu'il a fauté. Et le quatrième avis dit, en fonction du verset, que quand ils se sont retrouvés nus, ils se sont couverts, ils ont couvert leur nudité de fruits par des feuilles de figues, alors c'était une téhéna. c'est une figue. Donc il a quatre dimensions. En fait, l'arbre, c'est les quatre habits se complètent. L'arbre transcende les mondes. L'arbre, au niveau le plus haut, il est Hita. C'est les quatre mondes de la création. Du bas vers le haut, nous avons le monde de l'action, Olam Asiya. Au-dessus, il y a le monde de la Yetira, de la transformation. Au-dessus, il y a le monde de la Bria, de la création. Et au-dessus, il y a le monde de la Hatzilut, de le monde de l'émanation. Donc, en fait, l'arbre transcende les mondes. Les mondes étaient emboîtés les uns dans les autres. L'homme lui-même est formé de ces quatre niveaux. Au niveau du cerveau, il y a le système nerveux. Sur le buste, il y a le système respiratoire. Plus en dessous, il y a le système de digestif. Et en bas, il y a le système de reproduction. Donc, il y a quatre niveaux dans l'homme aussi. L'homme aussi est composé de ces quatre niveaux, qui sont en parallèle avec la qualité de cet arbre-là qui transcende les mondes qui étaient emboîtés les uns dans les autres. C'est pour ça que le monde de la matérialité était d'une finesse et d'un raffinement exceptionnel. Ce n'est que après la faute que le monde a pris l'apparence, la matérialité le monde de la matérialité s'est détaché et a chuté. Et durant cette chute, la matière a pris de l'ampleur, de l'épaisseur et s'est transformée pour devenir ce que nous la connaissons, ainsi que nous la connaissons. Donc cet arbre-là, c'est l'homme. L'homme, il est appelé Ilan. Et ce Ilan-là, il avait le numérique de 71, de 91. Il avait un numérique de Amen. Le nom de Dieu est écrit Yudke Vavke. Le nom de Dieu, celui de l'émanation, il est écrit Yudke Vavke. Il est dans les cieux. Nous, sur terre, nous ne pouvons pas le prononcer Yudke tel qu'il est écrit, ainsi qu'il est marqué dans Parashat Shemot, Zeshemi Vezezichi. Voici mon nom et voici comment on le prononce. Alors la Gemara déduit, il est écrit Yudke Vavke, mais nous le prononçons Ado plus loin Nai. Donc ce qui s'est venu notre Seigneur, notre Maître. Donc le nom de Dieu écrit Yudke Vavke est prononcé Aleph Dalet Monyod 26, Yudke Vavke valeur numérique de 26, et Aleph Dalet Monyod Ado plus loin Nai valeur numérique de 65. Quand on prononce la bracha, il s'agit d'harmoniser, de conjuguer l'écriture avec la prononciation. Et c'est pour cela que Chachamim disent que ce grand, plus grand, est celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Parce que celui qui répond Amen dans son Amen, il relie, il conjugue, il harmonise l'écriture avec la prononciation. C'est ça le sens du Amen. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on va conjuguer les puissances célestes avec les puissances terrestres. Donc ainsi l'arbre est enraciné profondément dans la terre. Il tire ses énergies de la terre. Mais cette terre-là ne peut lui procurer les énergies que si des cieux, il pleut, que les cieux accordent la pluie, et que le soleil brille, et qu'il y ait des énergies. Donc l'arbre va se développer et va produire son fruit grâce à la conjugaison des forces de la terre qui sont influées par les flux que les cieux octroient à la terre. Donc c'est la conjugaison des deux éléments. Et c'est ça le sens du mot, Ilan. Donc, c'est l'homme qui agit ainsi. Donc, l'arbre ressemble à l'homme. L'homme a les pieds sur terre. Et là, sa structure, et il se dresse vers le haut. Il est certes fait de matière, mais il a une âme spirituelle qui lui octroie l'intelligence, les facultés intellectuelles de regarder et de toucher les cieux. Par sa volonté, sa pensée, sa capacité de discernement, de savoir, de comprendre, il arrive à relier les cieux à la terre. Donc il n'est plus simplement un homme, c'est pour ça d'ailleurs que l'homme est dressé vers le haut. C'est son âme qui le dresse vers le haut. Toute chose en ce monde retourne, cherche à retourner à sa source. Alors la matière est attirée vers la terre, mais l'âme est attirée vers le haut. Donc elle tire, l'âme tire l'homme vers les sphères supérieures. C'est l'expression de l'intelligence et de la lumière, du savoir, de la connaissance. Ça, c'est le sens du mot Ilan. Pour ça que la Mishnah indique Rosh Hashanah la Ilan. C'est marqué au singulier. À présent, chaque fête a une particularité. Comment se situe? Alors, il y a des fêtes qui sont Minatora, des fêtes qui sont des Rabbanan, et il y a des fêtes qui sont des pratiques, des coutumes qui se sont instaurées. Alors, nous allons voir. Pessah, Sukkot et Shavuot sont les trois fêtes de pèlerinage. À cela, qui sont indiquées dans la Torah. À cela, il faut ajouter Rosh Hashanah, Yom Kippour, et les 10 jours de pénitence. Alors, comment placer dans la structure, de l'arbre séphirotique, comment placer toutes ces fêtes? Alors, Pessah, c'est la bonté absolue qui s'est dévoilée. Donc, elle est à droite, c'est le Chesed. Rosh Hashanah, et Yom Kippour, ainsi que Sukkot, sont dans le mois de Tishri, qui est le mois de la rigueur et du jugement. Ils sont à gauche. Shavuot, c'est le jour de la fête où la Torah a été octroyée aux hommes. Donc la Torah va permettre d'équilibrer, qui fait le trait d'union entre la droite et la gauche, et la Torah est attribuée à Yaakov, à Moshe, qui sont le pilier central de la structure. Moshe étant au niveau du da'at, du cervelet, et Yaakov étant au niveau du buste. Donc, le bras droit, le bras gauche, le bras droit étant Pessah, le bras gauche étant Rosh Hashanah, les jours de rigueur, du jugement, et le milieu, il y a Shavuot. Au-dessus de cela, nous avons les méninges dans la tête, nous avons les méninges, l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère gauche, et l'élément, le cervelet qui fait ce qu'on appelle le da'at, chokhma, bina, va da'at. Donc les méninges sont qualifiés de keter, la volonté première. L'hémisphère droit du cerveau, c'est la chokhma, le savoir, l'idée première qui parvient, elle est transmise à l'hémisphère gauche, à la bina, qui va la travailler, de sorte de pouvoir la réaliser dans les actes. Donc, c'est le travail qui va être confié au cervelet. Le cervelet envoie des impulsions pour que le corps puisse agir. Alors, nous avons le bras droit, Pessah, le bras gauche, Rosh Hashanah, et au milieu, nous avons Shavuot qui fait l'équilibre. Puis, jusque-là, nous avons parlé des fêtes qui sont indiquées dans la Torah. Mais dans les fêtes qui ont été rajoutées par les Chachamim, nous avons Hanouka et Purim. Hanouka et Purim correspondent, elles, aux deux jambes. Hanouka et Purim sont interchangées. Hanouka, c'est le Hod. Et Purim, c'est aussi le Netzach, c'est la victoire sur Amalek. Donc, ces deux fêtes-là sont au niveau de Netzar et Hod qui sont attribués. Netzar, c'est la victoire, et le Hod, c'est la modestie. Ces deux attributs, ces deux vertus sont attribués à Moshe et à Aaron. Puis vient Tu Bishvat, mais Tu Bishvat n'est pas seul. Tu Bishvat est aussi en parallèle avec Tu Béav, ainsi qu'il est mentionné dans la Mishnah. Alors, les Tu Bishvat et Tu Béav sont les deux facettes du Yesod attribuées à Yosef. Le Yesod qui est le fondement, c'est-à-dire c'est le Yesod est comme le vendredi qui canalise, qui reçoit toutes les énergies créées dans la semaine, toutes les richesses que nous produisons dans la semaine et qu'il les rassemble. Le vendredi, et il les canalise et il les dirige vers le Malchut, vers le Shabbat. Donc, nous dit le Hari, il y a 6 mois qui sont qualifiés de masculin et 6 mois qui sont qualifiés de féminin. Donc, c'est quand les mois d'hiver sont masculins, c'est-à-dire que l'hiver va agir de manière imperceptible, de sorte qu'on est au printemps, les mois de printemps et d'été sont les mois où les choses se réalisent. Donc c'est les mois féminins. Les mois masculins commencent de Tishri jusqu'à Adar inclus. Et de Nissan jusqu'à Elul, ce sont les mois féminins. Donc nous avons deux fêtes qui tombent le 15 Shvat et le 15, en parallèle du 15 Av, qui sont deux facettes, les deux facettes masculines et féminines du Yesod. Donc c'est comme ça que marche le système des fêtes. À présent, nous allons voir comment le mot Ilan contient quelque chose qui le dépasse en fait. Nous allons voir, observons comment s'écrit le mot Ilan. Alors le mot Ilan, il s'écrit Aleph Lamed Yud Nun. Alors quand on développe ce mot Aleph, quand on le développe, Aleph s'écrit Aleph Lamed P. Le Yod s'écrit Yod Vav Dalet. Le Lamed, Lamed Mem Dalet. Et Nun, Nun Vav Nun. Donc ce mot-là, à valeur numérique, le mot Ilan développé, a valeur numérique de 312. Il correspond à Hodesh. Le mot Hodesh, à valeur numérique de 312, c'est Hadash, nouveauté, renouvellement. Il correspond aux 12 tsiroufé chez Motavaya. C'est-à-dire que, à chaque mois, les mois commencent, le premier mois étant Nissan, le nom de Dieu, à chaque mois, correspond une combinaison du nom de quatre lettres, Yudke Vavke, qui correspond à une tribu d'Israël, correspond aussi à un des signes astrologiques. Et quand on prend Yudke Vavke, qui a valeur numérique de 26, et on multiplie par 12, on obtient 312. C'est le mot Hadash. Donc cet Ilan-là, ce Ilan-là, quand il se développe et il prend de l'ampleur, il fait référence aux 12 mois de l'année, aux 12 compositions de l'année. Alors, le Seder de Toubishva, tel que nous le pratiquons aujourd'hui, c'est une coutume qui est relativement récente. L'essentiel du Seder de Toubishvat est innové après le Rabbeinu. Le Rav Ha'ari n'en parle pas du tout. Le Rav Chaim Vital n'en parle pas du tout. C'est deux générations plus tard où il est mentionné dans le Sefer Hemdat Yamim. Certains l'attribuent à Nathan de Gaza, d'autres l'attribuent à Rabbi Binyamin à Lévi, peu importe, mais dans ce livre-là, c'est lui le premier qui va détailler et qui va établir la pratique et donner un sens à ces fêtes. Alors il dit, il propose plusieurs possibilités pour faire ce céder. Alors il dit au minimum, il convient de prendre 12 fruits qui correspondent, du fait, ainsi que nous l'avons expliqué, qui correspondent aux 12 mois de l'année et aux 12 compositions, du Shema Vaya. Donc, la première composition au mois de Nissan, le nom de Dieu, le nom de Yudke Vavke, est écrit Yudke Vavke. Alors là, et ça correspond à la tribu de Yehuda. Et là, il nous dit, prenons une olive, Zaït. Le second Shem, il s'écrit Yud, Ke, les deux et au milieu, et le Vav à la fin. Il correspond au mois de Yar. Là, on prend un Tamar. Alors, dans ce sens-là, donc, nous allons avoir 3 mois qui commencent par Yud. Le troisième mois, c'est Yud, Vav, et les deux et ensuite, c'est les raisins. Donc, Zaï, Temarim, Anavim. Puis, nous avons les 3 mois qui commencent par He, Le Hé, Vav, Ké, Yod, c'est la figue. Le mois suivant, Hé, Vav, Yod, Ké, c'est le rimmon, la grenade. Ké, Yod, Vav, c'est le étrog. Après, nous avons 3 mois qui commencent par Vav. Vehaya, Vav, Ké, Yod, Ké, c'est le mois de Tishri, correspond au tapouar. C'est pour ça que nous prenons une pomme le soir de Rosh Hashanah. La pomme faisant référence à l'année entière. Puis vient le mois de Cheshvan, et là nous avons Vav, les deux et le Yod, c'est le Egol, c'est la noix. Après nous avons Yod, Ké, Vav, et là c'est Shkidim, c'est les amandes. Après, il y a, non, Vav, Yod, Ké, c'est Shkedim. Et les 3 derniers mois, qui sont Heshvan, Kislev, et, qui sont Kislev, Tevet, et Shvat et Adar, nous avons, et deux Hé, Vav, Yod, c'est les caroubiers. Ké Yod, Ké Vav, c'est Agas. C'est la Agas, c'est la poire. Et Ké Yod, Vav, Ké, c'est Ozradim. Donc, c'est les Chabouchim. Donc, il conseille de prendre ça de telle sorte que les 12 mois de l'année sont mentionnés ici. Cependant, dans Shaar HaLikutim, le Rabbi Haïm Vital, il propose, il indique que dans la parashat Aïkev, il indique là où la Torah a dit qu'il doit aller chercher levado yahi Adam l'homme, comme il est dit, Eres Hita Osora, là où la Torah mentionne les 7 fruits d'Eretz Israël. Rabbeinu Haïm Vital indique qu'il y a 3 catégories de fruits. Il y a les fruits, il est établi de la manière suivante. Il y a les fruits qui sont de Mirolamabria, qui sont pratiquement entièrement bons. On peut tout manger pratiquement dans ces fruits, qui sont le raisin, la figue, la pomme, le étrog, le citron. Le citron n'est pas mangeable tel quel, il faut en faire de la confiture. Alors, à ce moment-là, on peut manger même l'écorce, la poire, le coing aussi. Et les haroubim. Ces fruits-là, alors il propose de placer 10 fruits par rapport aux 10 sphirot. Donc il place ces 10 fruits-là, des fruits de cette catégorie, qui sont pratiquement entièrement consommables. Puis viennent les fruits qui ont des noyaux. Ils sont des olam hayetzira. Alors on a les olives, les dattes, les cerises, les prunes, les pêches, les abricots, etc. Puis la troisième catégorie, alors donc là on voit qu'on a un noyau, il s'agit de fruits où il y a du bon et du mauvais. Mais seulement le bon domine, est dominant, et le mauvais, ce qui est pas, la partie mauvaise, elle est dominée et elle est enfermée. Donc c'est comme si que le bon ne laisse pas la partie négative se développait plus qu'il ne faut. Donc elle l'enferme. C'est ça le sens du noyau. Puis vient la troisième catégorie qui, à l'inverse, le bon est enfermé dans une coque et dans une écorce. C'est ce qu'on appelle Olam HaAsiya. Alors dans l'Olam HaBriya, il est pratique. Olam HaTzilut, c'est inaccessible. Olam HaBriya, le monde de la création, il est pratiquement tout bon. Rubo Tov. Le monde d'Aetira, il est moitié-moitié. Du bon, il y a du bon et du mauvais, mais le bon peut prendre le dessus, comme nous l'avons dit, à travers l'image du noyau. Puis vient le monde où, majoritairement, le monde est mauvais. Le mal qui est contenu, le négatif qui est contenu dans ce monde est dominant. Et le bon est secondaire. Alors ça, c'est pour ça que dans cette troisième catégorie, ce sont les écorces qui enferment le bon. Alors on a les grenades, les noix, les shkedim, les amandes et tous les fruits à coque. qui sent la pistache, qui sent ce qui est mauvais, et on enferme le bon, il ne le laisse pas se développer au-delà. Donc il y a donc il s'agit ici de décortiquer pour atteindre ce qui est positif. Alors le sens que nous devons donner à cette fête de Tu Bishvat est le suivant. Quand nous, le Yerushalmi dit que tout ce qu'a créé Akadosh Baruch Hu en ce monde est bon. Donc ce sont les énergies. L'arbre va produire des fruits merveilleux. C'est toute cette production et contient des énergies positives. Ce sont les énergies. Quand on prend un fruit et qu'on fait la bracha et qu'on le mange avec une intention, la bracha doit être prononcée, la bracha adéquate doit être prononcée correctement. Et quand on le mange, l'intention que l'on doit avoir, c'est de faire jaillir les énergies que contient ce fruit. Ça, c'est fondamental. Donc l'expression, la consommation, quand on mange, en fait, on dévoile ces énergies. D'ailleurs, l'essentiel de le plaisir que l'on a à manger, il ne vient de réalité de personne de manger quelque chose qui est indigeste et mauvais, qui a un mauvais goût. Donc les fruits, quand on dit le fruit est beau, il ne s'agit pas d'un fruit beau seulement, un fruit bon à manger, ainsi que l'a constaté Chava va terrer, Kitova es le ma'achal, que Velihamad le aski. Donc elle a observé l'arbre, et elle a vu que le fruit de cet arbre-là était bon à manger, et qu'il était délicieux, et qu'il permettrait de comprendre les askil. Donc c'est-à-dire qu'en mangeant, on doit dévoiler les énergies pour s'attacher encore plus et comprendre. Alors le goût, c'est le goût, les énergies fondamentaux qui donnent à chaque fruit sa qualité et son aspect, c'est le goût qui c'est traduit par le goût. Et le goût indique que chaque fruit est particulier, contient une énergie particulière. Et c'est ça l'intention quand on mange les fruits. Dans le seder ici indiqué du Hamdat Yamim, il est dit que alors on mange si on arrive à obtenir ces 30 fruits tels qu'on les a indiqués. Alors entre eux, on mange de manière progressive. On va du plus bas vers le plus haut. Et à chaque fois, on boit un verre de vin. Alors, au début, on boit pour marquer le trait d'union entre les mondes. Alors on va manger les fruits à coque. Alors on va faire une bracha sur un verre de vin rouge, entièrement rouge, qui indique la rigueur. Après, on va manger la deuxième catégorie, et là, on va boire un verre de vin pour marquer on va boire un verre de vin qui est rouge avec un peu de blanc. Puis on boit pour faire encore une fois le trait d'union entre les mondes, un verre de vin moitié-moitié, moitié rouge, moitié, essentiellement blanc avec un peu de rouge, et entièrement blanc. Le dernier sera entièrement blanc. De sorte que la progression qu'il y a indique que les fruits, de la même manière que l'arbre de la connaissance, les quatre niveaux étaient emboîtés les uns dans les autres. De même, nous pratiquons ce céder-là de telle sorte que d'emboîter les olamot, de les conjuguer, de les lier les uns aux autres, de les élever vers le plus haut. Donc, comme nous l'avons dit, l'homme se tient debout et il aspire à être attiré vers les sommets, vers les hauteurs. Ça, c'est l'idée qui est mentionnée ici. Donc, maintenant, les sept fruits d'Eret Israël, si on observe les sept fruits d'Eret Israël, alors dans les sept fruits, on peut les définir ainsi. Donc, il y a d'abord l'Ahita, les sept fruits d'Eret Israël sont l'Ahita, le blé, l'orge, puis vient le Geffen. Le Geffen, c'est le vin ou le raisin. Ces trois-là se situe, la Hitan, nous l'avons dit, c'est Chochma. Elle contient en elle les 22 lettres de l'alphabet, comme dit le Sefer Etzira, Kadosh Baruch Hu, c'est par les 22 lettres de l'alphabet qu'il a créé le monde, c'est la connaissance. Et cette, alors que ça se situe à l'hémisphère droit du cerveau. La Seora, elle est à gauche. Parce que nous disons que la Seora est l'aliment des animaux. Donc c'est de moindre qualité. Alors il est à gauche. Et le Geffen, il est Bedaat. Parce que le bon vin, le vin vieux, bien bu, celui qui sait boire le vin, il peut avoir ça peut lui procurer de la connaissance et de, il peut se dépasser de point de vue intellectuel avec, quand on boit le vin avec mesure et modération, avec savoir boire. Alors ça peut réjouir l'homme de sorte qu'il puisse atteindre les sommets. Donc le Geffen se situe au niveau du cervelet. Hesed, Gevura, Tiferet n'ont pas de fruits. Parce que ces trois-là que nous avons cités, Hita, Seora et Geffen, le blé, l'orge, et l'orge en général dans le CDR, si on n'a pas d'orge, on prend de la bière, on fait chez Acol sur de la bière, on fait donc un maisonnote sur le gâteau, sur le blé. Chez Acol, si on a de la bière, sur la bière, et on boit Boré Pera Geffen sur le vin. Ces trois-là, ils influent sur les parties inférieures, qui sont ça c'est la connaissance, qui influe sur l'émotionnel, qui sont les deux bras et le buste, au niveau du cœur. La téna, la figue et le rimon se placent, quant à elle, sur les deux jambes. Ils sont sur une tsar vaot. Le zaït se place, quant à lui, dans le yesod. Et le tamar, la temara, elle se place dans le malchut. C'est comme il est dit que Déborah Nevia était installée sous le tamar et établissait la loi. Donc nous avons ici tout le système le système des sept fruits d'Eretz Israël. Comment ça fonctionne? À chaque fruit, la chita, la seora, le geffen, la tena, rimon, zaït, betamar. Chacun produit des énergies. Il faut savoir les placer. Et l'essentiel, c'est de faire une bracha correcte, la bracha qui correspond. On remarque que toutes les bénédictions que l'on fait sur les fruits, que ce soit Boré Peria Et, Boré Peria Adama, Shea Kol Nia Bidvaro, et etc. Toutes les brachot sont constituées de 9 mots. La seule bracha qui en a 10, c'est Amotzi Lechem Min Haaretz, le pain, parce que le pain, il englobe le tout. Donc c'est comme si que tous les éléments des fruits, etc., ne constituent que 9 éléments. Alors que, donc, il manque une sphira, c'est en vérité la bracha elle-même, le dixième élément, la bracha elle-même se déverse, les neuf composants de la bracha se déversent dans le réceptacle, donc, qui est le malchut, qui est le bassin d'abondance. Donc, quand on fait une bracha, on déverse les énergies dans un bassin qui va nous le rendre. C'est le malchut et la dimension qui va diffuser les énergies, les bénédictions, les abondances en ce monde. Alors que dans Amotzi Lechem Min Haaretz, il y en a déjà 10. Le Lechem lui-même, il est de cette dimension-là. Donc ça, c'est... Donc nous voyons de là que l'importance de la récitation correcte d'une bracha, l'importance de savoir jouir de ce monde avec modération, dans une intention de diffuser les énergies. La table et le misbéar, quand on est à table, aujourd'hui il n'y a plus de misbéar pour obtenir l'expiation de nos fautes, nous avons notre table. La table remplace le misbéar, et si on sait consommer, on sait, donc il est obligatoire de s'alimenter. Donc la table, en faisant cette obligation, en remplissant cette obligation de s'alimenter, alors on permet en fait de constituer, si on sait le faire, on peut réparer en fait la faute de Adam Arishon et de rétablir les éléments. Adam Arishon, par la faute, il a détaché les éléments et la chute, comme nous l'avons dit, le monde de la matérialité s'est détaché et tombé. Et il semblerait, quand on observe le monde, qu'il est indépendant, qu'il se suffit à lui-même. Donc tout le travail de l'Avodat Hashem consiste justement de rétablir les choses. Comment? En remontant, en faisant réintégrer, en prenant le monde de la matérialité et en le reliant au monde de la spiritualité au monde au pluriel. De la spiritualité la plus éminente et la plus haute. De remonter tout ça vers les hauteurs. D'ailleurs, tout ce qu'on consomme, l'organe qui est celui qui consomme le plus les énergies que nous absorbons, c'est le cerveau. Donc, on consomme des énergies, on se nourrit de telle sorte que notre cerveau puisse fonctionner. Donc, c'est ça l'idée que de la kavana de Achila. Harry développe longuement les intentions qu'il y a dans la consommation, dans le fait de devoir se nourrir. Et l'essentiel, c'est d'emmagasiner des énergies et de les rétablir grâce à ces énergies notre alimentation. Cela nous permet de pratiquer la Torah, d'étudier la Torah, de la comprendre et de la pratiquer avec ferveur, enthousiasme, et de comprendre les choses. Donc ça, c'est la finalité. D'étudier la Torah, ça signifie rétablir, en fait, les mondes et de les restructurer tels qu'ils se doivent. Et c'est ça, Tu Bishvat tombe. Alors, l'idée qui est mentionnée ici, c'est que Tu Bishvat est le 135e jour depuis Rosh Hashanah. Cette 135 correspond aux deux noms 72 et 63. 72, c'est le nom de Dieu Yod-Ké, Vav-Ké avec des Yudim. Quand il écrit Yod, Yod, Vav, Dalet, et s'écrit Hey Yod, Vav, s'écrit Vav, Yod, Vav, et le dernier s'écrit Hey Yod. Ça fait 72. Valeur numérique, Hesed. Puis vient un monde inférieur, il correspond au monde de l'émanation. Puis vient un monde inférieur qui a, dans la valeur numérique, sera un Shem qui aura la valeur numérique de 63. C'est un olam un peu inférieur. Le monde, le premier étant le monde de la masculin, du donneur, et le second étant celui du receveur. Mais les deux se conjuguent. Donc nous avons comment on obtient 63. Yod ne change pas, Ké ne change pas. Le Vav, au lieu de mettre un Yod, on met un Aleph. Et le dernier aussi ne change pas. Donc 63. Quand on prend 72 et 63, ça fait 135. Ça correspond exactement. Donc, ces deux catégories de lumière se sont diffusées tout au long de l'année. Et à partir de là, donc ces deux noms-là, en vérité, ils correspondent au Yud-Ké. Maintenant, va apparaître le Vav. Le Vav, c'est l'homme. Ça ressemble à l'arbre. À partir de Tu Bishvat, va apparaître le troisième composant. C'est le Shem de la réparation. Qui est Yod Ke Vav Ke, valeur numérique 45. Comment ça s'écrit? Yod ne change pas. Yod Vav Dalet. E s'écrit E Aleph. Vav s'écrit Vav Aleph Vav. E Aleph. Ça fait 45. C'est le Adam, valeur numérique de Adam. Et ce Shem-là, c'est le nom de la rémence. C'est pour ça que, à partir de Tu Bishvat jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, il y a 45 jours. Et à Nissan va apparaître le monde va se renouveler. C'est le renouveau de la nature. C'est le mois de la délivrance, la Géoula. Et la Géoula, tout le reste, c'est le dernier Shem qui est le Shem qui doit être réparé. C'est le Shem Ben, le Shem de valeur numérique qui ne composé que de 9 lettres et qui est de valeur numérique 52. Qui est la féminité de ce monde en particulier, par excellence. Donc le ma de valeur numérique 45 répare le ben de valeur numérique 52. Et la conjugaison des deux fait le zman. La 52 et 45, c'est le temps, c'est le zman, le temps imparti à la réparation. Et quand ce temps-là arrive à est réparé, alors la geoula peut jaillir et peut se réaliser. Donc c'est cette idée-là que nous devons avoir à l'esprit en ce jour de Tu Bishvat, qui indique que la majorité des pluies est derrière nous et que la sève monte dans les arbres pour que d'ici quelques semaines le bourgeonnement et la floraison se fassent et que les fruits soient que les arbres donnent leurs fruits. Et cette idée-là, c'est le travail de l'hiver qui fait, qui est masculin, qui influe le travail, le Kiyuma Torah ve Mitzvot pendant l'hiver. Alors c'est ça qui va permettre la réalisation finale de la Geoula étant le fruit. Et c'est en réalité, c'est le travail des Midot de l'homme, c'est l'homme qui doit se travailler. Comme il est dit, la Gemara rapporte cette image, ce machal de celui qui a traversé le désert et qui arrive à l'oasis. Et soudain, il arrive à une oasis. Et dans cette oasis-là, la perfection est établie. Il y a une source, il y a des arbres, il y a des figuiers, il y a des dattiers, et il peut se nourrir, se reposer, se laver, et il y a de l'ombre. Alors, avant de partir, nous dit la Gemara, comment cet homme-là, ce voyageur, va remercier cette oasis. Alors il dit, Ilan, Bame Avarcha, toi arbre, par quoi je pourrais-je te bénir? Alors voilà que tes fruits sont doux, sont parfaits, que l'eau, la source vive, est à tes pieds, l'arbre est planté juste à côté de la source et que ton ombre est parfait. Donc tout est parfait. Alors il dit, Yiratson, il fasse Dieu que toutes les plantations qu'on fera de toi te soient totalement identiques, soient identiques à toi. Que la source étant parfaite, ainsi tout ce qui sera planté à partir de cette source, de cette racine, de ce plant, alors ils doivent être à l'image. C'est cette idée-là que nous devons, l'arbre étant l'homme tel que HaKadosh Baruch Hu l'a créé, il lui a donné toutes les qualités possibles. Il peut avoir de l'ombre, il peut avoir de l'eau, il peut avoir de l'arbre qui produit de bons fruits. Donc il s'agit de réaliser cela et de là où on va planter ces énergies-là de sorte que ça se développe encore et encore jusqu'à que les fruits puissent se réaliser totalement par la venue de la Geoula Bimera Bamenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.